Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 50, Kaki Api, 21 volcans en un mois. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et aujourd'hui c'est le 50e épisode déjà de l'émission. L'émission qui est née il y a plus de 4 ans déjà, et oui le temps passe. Et pour marquer le coup aujourd'hui, je vous présente cette interview très intéressante de Rémi Kobalkini qui a réalisé l'exploit un petit peu fou de grimper 21 volcans indonésiens en un mois seulement, répartis entre différentes îles de l'archipel. Rémi m'a contacté pour participer à l'émission, mais comme il habite en France, nous l'avons réalisé via Skype. L'interview est assez longue, plus longue que d'habitude, mais vous allez le voir, ça vaut vraiment la peine. Enfilez de bonnes chaussures de marche et préparez-vous à une grande aventure avec Rémi pour son projet Kaki Api. Alors bonjour Rémi, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Bonjour Romain.
Eh bien écoute, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir dans l'émission aujourd'hui. Et puis je vais commencer tout de suite par te remercier parce qu'en fait c'est toi qui m'as contacté il y a quelques jours de ça par email où tu m'as parlé d'un projet, d'un défi un petit peu fou que tu as fait il y a quelques mois en Indonésie et ça a rapport au volcan. Alors sur les routes de l'Asie, on aime bien, on aime beaucoup les volcans et dès que j'ai l'occasion d'en parler, je saute sur l'occasion. Donc déjà merci de m'avoir contacté, merci aussi d'être un fidèle auditeur de l'émission. On va parler de ce que tu as fait donc en Indonésie vraiment en détail, mais pour commencer, voilà, est-ce que tu peux te présenter simplement en 2 minutes, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, etc.
Ben déjà, je te remercie toi d'abord. En effet, je suis un auditeur de Sur les routes de l'Asie. Donc j'ai découvert l'émission quand j'étais en Indonésie. Donc moi j'ai 28 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai grandi dans le sud-est de la France, à côté de Nice. Et j'ai eu l'opportunité de partir pendant un an et demi sous un contrat qui s'appelle le volontariat international en entreprise à Jakarta, en Indonésie. Et c'est là-bas que j'ai découvert et les volcans et sur les routes de l'Asie.
D'accord, effectivement, le fameux VIE qui est un bon moyen pour les jeunes Français de partir à l'étranger. Moi, c'est ce que j'ai fait pour arriver à Singapour, d'ailleurs, sous un VIE. Alors, ok, donc tu as vécu un an et demi en Indonésie, donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce que tu peux juste raconter rapidement ce que tu as fait là-bas?
Donc, je suis parti, j'ai travaillé pour le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, ils m'ont envoyé là-bas sous un, pas du tout dans le nucléaire, mais sous une approche plutôt géophysique. Donc, ils développent des équipements sismiques et ils ont un partenariat avec l'Institut National Indonésien et j'étais là-bas comme consultant technique. Donc, j'étais un peu dans le bain de tout ce qui est tremblement de terre, alerte tsunami. Donc, je travaillais dans les locaux de cet institut à Jakarta, qui s'appelle le BMKG.
D'accord, j'imagine qu'à un an et demi, tu as dû sentir la terre trembler quelques fois quand même.
Oui, ça arrive souvent, ouais. Presque chaque jour. Sentir, moi, pas vraiment, mais en tout cas, je passais dans la salle de contrôle et on voit tous les jours des tremblements de terre en Sulawesi, à Sumatra. On a régulièrement au centre de surveillance sismique, la télé indonésienne qui vient pour faire des documentaires, etc. Moi, c'est une actualité assez forte, les tremblements de terre en Indonésie.
Ouais, j'imagine. Bon, écoute, c'est intéressant tout ça. Et comme tu as passé autant de temps là-bas, un an et demi, c'est quand même assez long. Tu as pu, j'imagine, pas mal explorer le pays. Bon, pas que Bali, bien sûr, qui reste la destination phare, mais tu as dû aussi pas mal bouger. Et tu as eu l'idée, alors un peu folle, il faut le dire, de te mettre un défi. À la fin de ta mission, je crois, avant de repartir en France, tu as eu l'idée de faire ce défi de grimper 20 volcans en 30 jours. Alors déjà, première question, pourquoi, d'où t'es venue cette idée?
C'est une bonne question. Donc déjà, quand je suis arrivé, j'avais en tête de prolonger mon séjour en Indonésie. Donc moi, je suis resté un an et demi et les 3 derniers mois, j'avais prévu de voyager. Je m'étais dit, je me ferai un voyage personnel, un projet personnel, etc. Et petit à petit, le voyage s'est transformé en challenge. J'avais envie de quelque chose d'un peu difficile à réaliser. Et pourquoi les volcans? Il y a deux ou trois raisons à cela. Déjà, j'adore la montagne. Je suis un passionné de montagne. Je vais souvent, depuis que je suis tout petit, avec ma famille, grimper des sommets, etc. En arrivant en Indonésie, j'ai eu la chance, en allant à Bali, comme tu le dis, de survoler Java, J'ai survolé aussi Sumatra et j'ai vu, un peu comme le dit Thierry Robinet dans ton émission, j'ai eu la chance de survoler ces cônes et de voir ces cratères et je me suis dit que il fallait que j'essaye de grimper ces volcans-là. Et enfin, une autre raison et qui m'a un peu validé mon idée de challenge de grimper les volcans, j'ai participé à un trail parce que juste avant de partir en Indonésie, je me suis mis à l'activité du trail. Et c'est une activité qui commence, qui se développe de plus en plus en Asie du Sud-Est. Et en Indonésie, la particularité, ils font ça sur des volcans, parce que c'est la montagne locale. Donc voilà, donc j'ai participé à un trail sur le Rinjani, et ça m'a confirmé mon projet, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait une structure, il y avait des sentiers, qu'il y avait des gens qui marchaient. J'ai vu comment ça se passait, et puis petit à petit, je me suis dit ben je vais en faire d'autres. Et j'ai rajouté un peu à ma liste les volcans. Et je suis arrivé à 20 volcans. C'est un chiffre rond. En 30 jours, j'ai essayé de faire quelque chose un peu d'abouti. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est un challenge. Et let's go.
Ah, c'est un vrai challenge. Ouais. Alors, tu dis que tu as commencé à avoir la passion des volcans via le Rinjani. On va reparler, j'imagine, du Rinjani parce que c'est quand même un volcan sacrément mythique. J'aurai sûrement l'occasion aussi d'ailleurs de partager mes expériences parce que j'en ai pas fait 20 en Indonésie, mais j'ai dû bien en faire 8 ou 9, donc, dont le Rinjani, qui est quand même pas le plus facile. Donc voilà, tu as commencé avec un trail sur le Rinjani. Donc je pense que déjà au niveau physique, tu étais déjà préparé et j'ai l'impression que tu es quand même plutôt du genre très sportif, non?
Ouais, ça demande un peu d'entraînement quand même. Ouais. Mais c'était là où je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je m'entraîne avant, parce que c'est vrai que le Rinjani, ça reste quand même un des plus difficiles en termes de dénivelé positif, en termes d'effort. La partie finale tu dois le savoir, elle est redoutable. Hein.
Elle est redoutable, ouais, effectivement. En plus, on commence très tôt le matin, en pleine nuit, donc c'est pas forcément évident. C'est bien ce que tu disais effectivement sur le survol près de Bali, donc de Java. On a des vues absolument fabuleuses là. Moi, c'est vrai que quand je vais à Bali régulièrement, enfin tout le temps, j'essaie d'être côté Hublot. Et si le temps est clair, on a une vue mais qui est quand même juste incroyable avec bah, le Kawajan, le Raung qui est pas loin. On voit au loin le Semeru qui fume. On voit les volcans de Bali, le Agung, le Batur, etc. Tous les gens qui vont à Bali, qui ont la chance d'arriver 2 jours, évidemment, parce que sinon on voit rien, et par temps clair, eh ben on peut que être fasciné, on peut que avoir envie d'y aller de plus près et voir ce qui s'y passe, quoi. Donc ouais, je pense que beaucoup de gens ont été intrigués par cette vue-là, hein.
Ouais, c'était un de mes loisirs après chaque vol, c'était d'essayer de retrouver le nom des sommets que j'avais vus. Donc il y en a qui sont reconnaissables, il y en a par exemple Summing Sindoro, ce sont comme des jumeaux juste à côté. Il y a le Chimerai à côté de Cirebon qui est aussi un cône parfait parce qu'à côté il y a rien, c'est relativement bas, et ainsi de suite. Ouais. Et le Kawaijen avec son lac bleuté. Ouais, c'est vrai que c'est très impressionnant.
En tout cas, cette émission, je pense, va faire un beau complément aux émissions antérieures qu'on a fait avec Thierry Robinet, où on a beaucoup parlé des grands volcans de Java. C'était bien sûr axé plus au niveau historique et puis aussi de la signification de ces volcans pour les peuples indonésiens. Mais toi, aujourd'hui, on va vraiment approcher ça de manière voilà, sportive, physique, le défi. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce défi, comment tu l'as planifié? Comment tu l'as organisé? Est-ce que tu as fait des choses en particulier pour être prêt? Est-ce que tu t'es dit du jour au lendemain, allez, c'est parti, je prends mon sac à dos, une bonne paire de chaussures? Comment tu as planifié la chose?
Non, je l'ai un peu préparé quand même. Je me suis pris quelques mois à l'avance. Donc, il y a eu déjà un mois et demi de préparation physique. J'ai essayé de courir. C'est pas facile, facile à Jakarta, mais j'ai essayé. Et après, une organisation en termes de planning. Essayer de. J'ai réservé tout de suite un premier billet d'avion pour officialiser la chose. Donc, le 6 avril, je partais pour Medan. C'était le billet d'avion était booké. Et après, essayer de trouver du matériel. Essayer de réfléchir. Certains volcans, c'est de savoir s'ils étaient faciles d'accès, etc. Donc j'ai essayé de rendre ça un peu, d'en faire un projet un peu abouti. Et une des premiers succès de cette préparation, c'est que j'ai réussi à trouver un partenariat un peu officieux avec une marque locale. Donc une marque qui s'appelle Consina, qui est une marque de outdoor randonnée indonésienne, assez répandue sur l'archipel, et qui propose des équipements pour faire de la randonnée. Et donc du coup, on a mis en place ce partenariat un peu officieux où moi j'ai accès à du matériel. Ils m'ont fourni veste, shorts, chaussures, etc. Et en contrepartie, moi je leur donnais des photos, je leur ai fait un ou deux interviews et ils ont profité de mon image pour dire que voilà, grâce au produit Consina, un Français avait grimpé grâce au produit Consina, un Français avait grimpé 20 volcans en 30 jours, etc.
Oh, c'est une bonne pub pour eux, ça.
Ouais, c'était une bonne pub, ouais. Oui, ils étaient contents. Maintenant, moi, je suis resté ami avec le responsable communication de la marque et bon, c'était quelque chose de très, c'était pas officiel, mais ça s'est très bien passé. Ouais.
Bon, écoute, on va commencer le voyage, hein, puisque maintenant, là, on a un peu le contexte en tête. Alors voilà, il y a 20 volcans. Je crois même que tu m'as dit que tu en as fait 21 au final, donc tu es même allé au-delà de ton défi de 20 volcans. Et on va évidemment pas parler de chaque volcan un par un, parce que bah, on n'aurait juste pas le temps, il faudra peut-être 3 heures. Mais on s'est dit qu'on ferait une sélection, et on en a quand même déjà sélectionné 9, donc c'est quand même déjà pas mal, avec voilà, les grandes étapes de ce périple. Alors, on est obligé de parler du tout premier quand même parce que c'est la mise en jambe. Donc, parle-nous déjà, voilà, pour retracer un peu le circuit. Donc, tu as fait des volcans entre Sumatra, Java, Bali et Flores. Hein, je rate aucune île.
Voilà, c'est ça. Donc l'Indonésie est sur l'arc de feu là. Donc il y a des volcans de Sumatra jusqu'à Sulawesi. Bah Sulawesi pour l'inclure à mon challenge, c'était un peu trop niveau financier puis logistique. Il fallait reprendre l'avion. Donc je me suis arrêté à Flores. Donc on a déjà un peu toute l'arc de volcans indonésien et j'en ai fait. Bah j'ai sélectionné comme ça. Donc premier point de départ, c'était Medan sur Sumatra Nord. Avec mon premier sommet, premier volcan, c'est Sibayak. Donc Sibayak, c'était une bonne mise en jambe parce que c'est un petit volcan, assez facile d'accès, mais qui offre déjà toute une panoplie d'aspects volcaniques qu'on retrouvera par la suite dans les autres volcans d'Indonésie. Donc il y a ces lacs qui fument, il y a ces cratères, plusieurs cratères, et c'est une source de géothermie. Donc il y a juste à côté, il y a une centrale thermique de géothermie. Et donc c'était une super mise en jambe, assez facile d'accès et voilà.
Alors quand tu dis petit volcan, c'est quoi? C'est qu'on le monte en 2 heures? C'est qu'il n'est pas très haut en altitude?
Donc si j'explique un peu mon départ, c'est j'arrive à 7 h du matin à Medan, je loue un scooter, c'est un peu la logistique qui s'est répétée durant mon projet, je file sur le chemin donc le départ du volcan et là il y a je crois qu'il y a 600 à 700 mètres de dénivelé. Donc en fonction des gens, ils vont mettre plutôt 2 heures. Moi j'ai mis 1 heure, quelque chose comme ça, et on est rapidement au sommet. Et alors normalement, on a une superbe vue sur le lac Toba, sur le Sinabung qui est juste à côté, qui était en éruption. Mais moi j'ai pas eu beau temps.
Ouais. Bon, le Sinabung, c'est vrai que bah il crache des nuits ardentes depuis quelques années maintenant, peut-être 3 ans à peu près, peut-être même un peu plus. Bon, celui-là, par contre, tu peux pas le grimper, hein, ça c'est clair.
Non, c'est ça. Mais ça fait partie aussi des choses qui ont bougé sur mon projet. J'ai eu le Sinabung, c'était su depuis longtemps que je pourrais pas le faire, mais il y en a eu un autre, c'était le Dempo sur Sumatra, et au départ je voulais le faire et en fait il s'est mis en éruption et du coup il y a toute une zone rouge d'interdiction d'approche, etc. Donc je l'ai enlevé de ma liste.
D'accord. Donc le Sibeyak, finalement, c'était une bonne entrée en matière, et c'est un volcan finalement assez facile pour quiconque s'intéresse à quiconque voudrait voilà grimper sur un volcan, peut-être pour une première fois, c'est une approche facile, quoi.
Oui, il y a 3 chemins d'accès. Il y en a un qui est très répandu et c'est même une balade de week-end pour les Indonésiens de la région, pour les locaux. Donc tous les gens, les Bataks de Medan, du lac Toba, etc. vont se balader à Sibayak le week-end. Ouais.
D'accord. C'est un bon complément parce qu'on a fait évidemment une interview sur toute cette région de Sumatra avec Thierry. On a parlé du lac Toba. On a aussi parlé des orang-outans au parc de Gunung Leuser. Donc c'est bien de savoir qu'on peut rajouter, si on a un peu le temps, on peut rajouter une balade sur le Sibayak. Voilà, c'est l'occasion de voir un volcan. C'est toujours agréable. D'accord. Eh bien écoute, tu parlais du temps qui n'était pas extra. Alors apparemment, là, l'étape suivante, voilà, c'était encore pire. Hein. Le Sibuatan, c'est ça?
C'est ça. Donc Sibuatan, c'est un peu l'extrême opposé, par exemple, du Rinjani qui est très très couru comme volcan où il y a beaucoup de monde. Le Sibuatan, il n'y avait personne. J'étais tout seul du début jusqu'à la fin. Et en plus, j'ai eu un temps extrêmement mauvais. Donc c'est un peu mon plus fort souvenir en termes de conditions climatiques. J'ai eu de la pluie du début jusqu'à la fin. J'ai eu aucun point de vue alors qu'il se trouve juste à côté du lac Toba. J'ai posé la tente dans un champ de boue, etc., etc. Et donc c'est un peu pour un deuxième volcan, c'était à peine le deuxième jour, ça m'a quand même moralement un peu touché, mais bon, j'ai tenu bon et ça a été un super souvenir. Donc un beau volcan parce qu'il est le volcan est peu fréquenté, du coup le sentier, moi j'avais l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux, on a vraiment une végétation très 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 dense. J'avais même du mal à passer avec mon sac à dos. Donc ça fait un peu un charme en tout cas autour du Sibuatan.
Oui, parce que comme tu le dis, s'il est très peu couru, il doit pas vraiment y avoir de sentier. Enfin, il doit y en avoir un, mais il doit pas être bien formé, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Il y a, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes volcans, il y a une organisation qui s'est occupée de tracer un sentier à travers la forêt. Ce sont des jeunes randonneurs indonésiens locaux de la région. Mais par contre, comme il est peu fréquenté, la végétation a repris ses droits et du coup, on a beaucoup de mal à passer avec un sac à dos.
D'accord, donc ça c'est un des volcans encore facile d'accès et peu fréquenté. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent de l'aventure et qui veulent voilà, être seul au monde en haut d'un volcan pour pouvoir prendre la photo, quoi.
Oui, en effet, ouais. Et en même temps, assez proche d'une région touristique qui est le lac Toba. Donc c'est un bon compromis, oui.
Ouais, t'as cité quelque chose qui est intéressant quand même, c'est que voilà, tu l'as fait seul, t'avais ta tente, donc t'étais seul dans la nuit à monter ta tente, etc. Ça, tu l'as prévu depuis le départ d'être seul sur la plupart des treks ou comment t'as approché la chose?
Oui. J'avais prévu au fur et à mesure que les gens me rejoignent sur des week-ends, mais moi c'était mon projet et du coup je savais que j'allais grimper la plupart des volcans tout seul. C'était pas quelque chose qui me faisait peur, la solitude.
D'accord. Par contre, est-ce que tu as eu des mauvaises surprises la nuit, par exemple? Je sais pas. Enfin, je sais que par exemple près du Semeru, il peut y avoir encore des léopards. Donc bon, voilà, c'est bon à savoir à l'avance. Est-ce que tu as eu des surprises?
J'ai eu une surprise, mais pour le coup, je n'étais pas seul. Je grimpais avec. C'est un des rares volcans que j'ai grimpé avec un ami. On a eu une sorte de petite belette indonésienne qui est venue nous piquer nos chaussures et notre nourriture de la tente. Bon, ça m'a plus amusé. C'est avant que je sache que c'était une belette. Donc l'ami, c'était un ami indonésien. J'ai juste vu les yeux orange dans la nuit. Et ça, pour le coup, je l'avoue, j'ai eu peur. Bon,
Ouais.
j'ai vu 2 yeux orange et qui se sont rapprochés de la tente. Et en fait, c'était un petit animal d'une 30 cm à peu près de longueur qui cherchait de la nourriture.
Ouais, je connais bien la sensation. C'était pendant un trip en Nouvelle-Zélande où on était en camping-car et pareil la nuit pour aller, bon, bah, pour aller faire ses petits besoins dans la nature. Je voyais des yeux oranges qui me fixaient. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, bah, le matin au réveil, on s'est rendu compte qu'on était dans un champ de moutons, quoi. Donc c'était que des moutons. Mais c'est vrai que la nuit, ça fait peur.
Ouais. C'était pas rassurant. Surtout que, comme tu l'as dit, on entend des histoires sur le léopard au Sémérou, le tigre au Kerinchi. On est dans une nature sauvage. Donc les petits yeux oranges, ça effraie quand même.
En effet. Bon, on va bientôt y arriver au Kerinchi, donc tu pourras nous dire si tu en as vu. Mais avant ça, donc on reste encore sur Sumatra et on va parler du Marapi. Alors celui-là, je le connais parce que je l'ai grimpé il y a peut-être 2 ans de ça, avec un temps à peu près similaire à celui que tu as eu à Sibuatane, donc c'était pas forcément terrible au niveau de la vue. Peut-être que tu as été un peu plus chanceux. Alors vas-y, raconte-nous le Marapi qui est accessible un peu à l'écart de Bukit Tinggi, hein, sur Sumatra.
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je suis arrivé à Padang et j'ai roulé jusqu'à Bukit Tinggi. Et après, il y a le départ du sommet. Donc moi, j'ai eu de la chance par rapport à toi. J'ai eu un temps magnifique. C'est un des plus beaux levers de soleil que j'ai eu sur tous mes volcans. Il a un cratère magnifique. On a la vue sur le Singgalang en face, sur Bukit Tinggi, etc. Mais le Marapi, c'est un volcan important de mon projet parce que j'ai eu une péripétie assez malheureuse. J'ai eu ma seule et unique expérience de vol de toute mon expérience indonésienne. Donc en fait, ce qu'on fait souvent quand on grimpe un volcan, qu'on part par exemple pour une nuit ou 2 nuits, on essaie de s'approcher le plus proche du sommet et on plante la tente proche du sommet et on la laisse le matin le temps de faire le sommet. C'est ce que j'ai répété, c'est ce que j'ai fait, ce qu'on fait au Rinjani, ce qu'on fait au Semeru, etc. Et au Marapi, c'était un samedi soir, c'était très 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 fréquenté. Je crois que c'est le sommet le plus fréquenté que j'ai fait de tout mon voyage. Et en redescendant du sommet, on m'avait volé ma tente, un sac à dos, des affaires de rechange. Rien de valeur dans le sens argent, passeport, etc. Mais quand même, c'était ma seule expérience de vol.
Ah, ça, c'est pas amusant. Quand tu dis fréquenté, il y avait combien de personnes sur ce volcan? Enfin, combien de personnes faisaient le trek approximativement? C'est en dizaines, en centaines?
Non, c'est plus en centaines.
D'accord,
En centaines.
ouais.
Oui, facilement en centaines. Sur le dernier camp de base, il y avait, je sais pas, des dizaines et des dizaines de tentes. Impossible de dormir. C'était surtout des jeunes qui jouaient de la musique, qui étaient là. Ça ressemblait, mais c'était très agréable avant que je sache que j'ai l'expérience du vol. C'était vraiment la randonnée du week-end. Ouais.
D'accord. Donc là, donc c'était ton combienième de volcan déjà là? Tu en étais à combien?
Donc là, c'est seulement mon troisième, en fait.
D'accord, c'est le troisième. Donc là, au niveau des jambes, au niveau du physique, ça se passe comment déjà? T'as déjà 3 volcans dans les jambes. Comment ça va à ce niveau-là?
Non, ça va. C'est juste moralement, j'étais bien, physiquement j'étais bien, et moralement, je prends un coup parce que ce vol d'affaires, ça me fait réfléchir sur comment je vais faire. Est-ce que je dois rentrer à Jakarta? Est-ce que je vais arriver à faire les 2 autres volcans sur Sumatra, etc. Donc là, c'est plutôt moralement que j'ai pris un coup. Physiquement, ça allait encore.
D'accord. Du coup, qu'est-ce que ça fait pour ta tante? T'as réussi à en trouver une à Bukit Tinggi ou à Padang ou...
Du coup, c'est là où j'ai un peu changé ma façon de faire mes volcans. Donc, j'avais à chaque fois deux options. Soit je dormais proche et donc j'emportais avec moi tente et affaires. Soit, ben, je dormais peu et je faisais l'ascension tout de nuit. Donc, pour rappel, mais on l'a déjà vu dans tes podcasts, à chaque fois, le but de tous les volcans, c'est d'arriver au lever de soleil. C'est là où c'est le plus joli. Et puis, en plus, il y a des conditions météo, enfin, de météo qui se gâtent tout le temps, très souvent en Indonésie, autour de midi, dans l'après-midi.
Et puis aussi, t'as l'ombre au lever du soleil et du volcan, qui est quand même toujours un grand moment.
Oui, ça c'est un des plus beaux souvenirs, c'est l'ombre, ouais, dans la plaine ou sur la mer pour le Rinjani. Et donc à chaque fois, il faut arriver au lever de soleil. Donc à partir de là, à partir du vol de la tente, j'avais à chaque fois, j'ai hésité entre tout grimper de nuit et ne pas dormir ou dormir. Et donc là, j'étais contraint, j'avais pas de tente avant de rentrer à Jakarta. Donc les deux prochains volcans, je les ai faits en grimpant tout de nuit, en fonction de la dénivelée à gravir.
D'accord, donc ouais, c'est un changement d'approche assez net, hein.
Oui. Notamment pour le prochain volcan dont on va parler, le Kerinchi, qui est le plus haut volcan d'Indonésie,
Ouais, 3800 et
3750,
quelques, ouais, c'est ça.
c'est ça. Et donc celui-là, je suis arrivé dans l'après-midi, sans tente, avec plus qu'une paire de chaussures, et j'ai douté énormément parce que j'avais un vol 2 jours après, et je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Et au dernier moment, j'ai dit, bon, je le tente. Et en fait, ça reste un de mes plus forts souvenirs sportifs aussi. C'est parce que je l'ai grimpé d'une traite de nuit en partant à 11h30 du soir et en arrivant le matin à 5h pour le lever de soleil.
D'accord, parce que là, on parle d'un gros morceau quand même, hein, 3805 mètres, le plus haut, comme tu dis, volcan d'Indonésie. On parle pas d'une balade de santé comme le Sibayak. Donc là, physiquement, comment t'as approché la chose?
Ben là, j'étais un peu donc dans l'ordre de ma feuille de route. Le lendemain ou le 2 jours après, je rentrais à Jakarta. Donc j'avais pour objectif de réussir ce sommet et après peut-être de me reposer, de prendre mon temps pour me réorganiser, etc. Donc j'ai tenté un peu le tout pour le tout dans le sens physiquement. Je me suis dit, si jamais après ce sommet-là, je suis moins bien, ben je prendrai le temps qu'il faudra pour me reposer. Et du coup, je suis parti d'une traite avec tout ce qu'on entend autour du Kerinchi, c'est un immense sommet. Il est grand, il est très haut, 3800 mètres. Il y a 2100 mètres de dénivelé positif. Il y a tout cet aspect autour qui en fait un sommet un peu mystique avec, on parle de présence de tigres. On déconseille fortement, fortement de le faire sans guide, etc. Et donc, pour moi, alors que c'était que le quatrième, non, le cinquième, c'est déjà mon plus gros défi de tout le challenge.
D'accord, oui, parce qu'effectivement, 2100 mètres de dénivelé, de mémoire, c'est à peu près ce qu'on fait au Rinjani, hein.
Un petit peu plus,
Un peu
il y a
plus,
deux.
ouais.
Ouais. Et donc, bah, ça s'est bien passé. Je l'ai fait, je sais pas si on doit le dire à la radio, je l'ai fait sans payer il faut payer à chaque fois, à chaque début de volcan, il faut payer les droits d'entrée au parc. Et moi, à l'heure où je suis parti, l'entrée au parc est fermée. J'ai croisé personne à part les gens qui avaient dormi des jours auparavant en arrivant au sommet. Et je suis arrivé plutôt en forme, en haut du sommet, et j'ai pu jouir de la vue vraiment magnifique qu'offre le Kerinchi sur toute la vallée, sur toute la région de Minang, et avec l'ombre du cône sur la plaine, avec...
Et donc là, la montée sans guide, tu as dit. Donc aucun problème de le faire sans guide, le chemin bien balisé, il n'y a pas eu de soucis à un moment de choisir le bon chemin ou...
Non, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'en ai pas parlé encore, mais moi je partais tout le temps avec les données GPS qu'on peut trouver sur Internet. Donc il y a des sites comme gunungbiking.com qui offrent les données GPS, qui offrent des descriptions des sommets avec les lieux exacts des départs de chemin, etc. Et donc je suis parti avec ces indications-là. Et non, le sentier est plutôt bon. C'est sûr qu'il faut pas déjà, avant de partir, avoir peur de se perdre, etc. J'étais relativement confiant. Au bout d'un an et demi d'Indonésie, je parlais relativement bien la langue pour essayer à chaque fois, dès que je rencontrais des gens, de me faire confirmer le sentier. Donc ça s'est bien passé. Le Kerinchi s'est bien passé. Et ça reste un de mes souvenirs les plus forts de mon projet parce que, en arrivant au sommet, j'ai eu une expérience assez incroyable. Je suis arrivé un peu trop tôt, donc on était plusieurs. J'étais le seul étranger, et donc j'ai attendu. Je me suis fait inviter par des Indonésiens au coin d'un feu, et j'ai attendu le lever de soleil au coin d'un feu. On était juste avant le sommet sur un petit plateau rocheux, et là, j'étais un peu en boule en essayant de pas trop avoir froid. j'ai entendu une voix dans, c'était le silence, et en fait, il était 4h30, quelque chose comme ça, et tout le groupe d'Indonésiens avec qui j'étais autour du feu s'est mis à prier, en fait, à 4h30 du matin, à 3700 mètres d'altitude. Et ils ont, donc c'était des musulmans de confession, et ils ont fait la prière du matin. Donc le chant que j'ai entendu, c'était l'appel à la prière, chanté par un du groupe, à 4h30, à 3700 mètres d'altitude. Et ça reste un de mes souvenirs les plus incroyables que j'ai fait dans mes volcans.
Ok, Balkirinchi, moi c'est vrai qu'en plus ça fait partie des volcans que je veux grimper. Je l'ai en tête depuis pas mal de temps, notamment parce que bien sûr c'est symbolique, hein, c'est le plus haut volcan d'Indonésie, 3800 mètres quand on y pense, c'est quand même pas petit. Je pense aussi que la température, enfin les conditions climatiques doivent assez vite changer entre le début du trek où il doit faire assez chaud, mais une fois que t'es là-haut, il fait quoi, zéro à peu près, quelques degrés au-dessus de zéro?
Moi, j'ai eu de la chance. Il faisait bien plus. Hein. Moi, il faisait plus près de 10.
D'accord.
Mais de tous les guides que j'ai lus sur Internet, il fait très très froid en Karinchi.
Ah, moi j'ai souvenir sur le Semeru, notamment El Rinjani, j'ai souvenir de 1 ou 2 degrés, donc c'est bien que tu aies eu ce temps-là.
Oui, j'ai eu de la chance. Mais j'étais quand même préparé. Hein. J'avais dans mon sac, j'avais des vestes, etc. Il peut faire très très froid, comme sur le Rinjani, comme sur le Semeru.
Ouais, non, c'est vraiment pas à prendre à la légère à tous ceux qui nous écoutent, qui veulent faire ces treks. Il faut prévoir pour le froid, très clairement, même si vous allez crever de chaud par 30 degrés ou plus pendant le trek la journée. Une fois en haut, à attendre le soleil qui se lève, d'ailleurs c'est interminable, c'est longues minutes où on attend que le soleil sorte son nez, et même quand il est sorti, il faut encore attendre une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure pour qu'il commence à chauffer un petit peu. C'est important de partir équipé, hein, ça se fait pas à la légère.
Ouais, il faut pantalon, gants aussi, gants c'est quand même
Bonnet
pas
parfois
mal.
aussi.
Grosse veste, bonnet et peut-être si vous avez de la chance, un thermos avec du thé chaud, c'est pas mal.
Ouais, bon conseil. Ok, bah écoute, on continue le périple. Et là, maintenant, on va parler du Chiang Mai. Alors, ça tombe bien, parce que celui-là, je ne le connais pas du tout. Donc, vas-y, parle-moi un peu de ce volcan.
Donc le Chiang Mai, il se situe juste à côté de la ville de Cirebon. Donc on est sur Java Ouest et il est assez haut, il fait 3000 mètres, je crois, 3100 mètres. Et il est impressionnant parce qu'il n'y a rien autour. On est directement sur la plaine côtière du nord de Java. Et donc du coup, il impressionne de loin et il offre un panorama magnifique. Le Chiang Mai, j'ai un bon souvenir du Chiang Mai parce que en fait, je l'ai fait pas tout seul. Donc je l'ai fait avec la personne de la marque avec qui j'ai fait le partenariat. Donc ça faisait partie un peu de la contrepartie. Sur un des volcans, je l'ai invité. Et donc on l'a fait tous les deux, donc c'était un bon souvenir. Il m'a suivi tout le long, il a fait des photographies, etc. Et sur la redescente, il m'est arrivé une aventure un peu. Maintenant j'en rigole, mais sur le coup j'ai eu très très peur. On avait une différence de niveau telle que je suis parti plus rapidement sur la descente et on avait convenu d'un lieu de rendez-vous au milieu de la descente, là où on avait laissé nos tentes. Je suis arrivé très en avance au lieu de rendez-vous et j'en ai profité pour plier la tente et me reposer un petit peu. J'ai attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au bout d'un certain temps, j'ai paniqué, j'ai eu très peur et je suis remonté chercher mon ami. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte de la différence d'approche de la randonnée entre l'Indonésie et l'Europe. C'est-à-dire que là, je savais pas du tout quoi faire, en fait. Je sais qu'en Europe, s'il y a des alertes en montagne, il va y avoir des systèmes de recherche, etc., des fois avec des hélicoptères, etc. Là, en Indonésie, déjà, il n'y a pas. Et de deux, moi, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas si je devais redescendre, si je devais m'occuper moi tout seul. Et donc, en fait, au final, j'ai cherché, je suis redescendu, et en redescendant, j'ai croisé des Indonésiens qui m'ont expliqué, avec ma description de mon compagnon de marche, qu'en fait, ils l'avaient croisé plus bas et qu'ils s'étaient trompés de sentier. Et donc là, j'ai eu une sorte d'ascenseur émotionnel, tout est redescendu, ils m'ont invité ils m'ont fait boire du café, ils m'ont fait fumer leur cigarette indonésienne, les kreteks. Enfin, tout d'un coup, j'ai eu toute une. Je me suis relâché émotionnellement et ça a été. Et maintenant, ça reste un souvenir assez fort. Et j'en rigole parce que de l'autre côté, lui, il est descendu avec un flegme un peu indonésien, sans qu'il y ait un peu de ma panique, etc. Et il était au Warung, donc le Warung qui est le restaurant local du départ, à m'attendre avec un migoreng ou un nasi goreng, je me rappelle plus. Donc voilà, ça fait. Maintenant, j'arrive à en rigoler, mais sur le coup, j'ai eu très très peur.
Ah, j'imagine. Est-ce que ça t'a fait changer pour la suite de l'aventure? Je sais pas. Est-ce que ça t'a vu la chose différemment dans la manière de faire ça avec quelqu'un d'autre? Parce que tu as fait des volcans tout seul, mais là tu disais que tu étais donc accompagné. Est-ce que dans la suite des volcans que tu as fait accompagné, est-ce que ça t'a fait changer un petit peu d'approche?
Oui. En fait, c'était la seule fois après sur tous les volcans que j'ai fait accompagner où je prenais une distance avec la personne avec qui je marchais, c'est-à-dire que soit j'étais en avance, soit j'étais en retard. Après, sur les autres volcans que j'ai fait, même si je marchais plus lentement ou j'étais en train de marcher moins selon moi au ralenti des fois en descente, etc. Non, j'ai décidé de plus quitter mes compagnons de marche. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir sur la façon dont se passent les secours là-bas en Indonésie. Mais après coup, je me suis renseigné quand même. Il y a quand même une structure. On est obligé de s'enregistrer au camp de départ et on donne son numéro de téléphone et ils nous prennent le numéro de téléphone. C'est pas comme en Europe. C'est après plusieurs jours d'absence, de disparition, peut-être que les gens du camp de base vont faire des recherches, etc. Mais il y a quand même une structure. Il y a quand même une mise en place d'une recherche, d'une alerte en montagne ou en tout cas dans les volcans, qui pourrait se rapprocher de ce qui se passe en Europe. Ouais.
Heureusement qu'il y a quand même une base, parce qu'effectivement, c'est pas rassurant de se dire si on a un blême là-haut, si personne n'est là pour nous aider. Effectivement, bah, il faut y aller en le sachant, quoi, hein, à l'avance, et bien planifier la chose.
Ouais, tout à fait.
Nous faisons une petite pause dans ce récit passionnant de Rémi pour que je puisse vous parler de Very Local Trip, qui, vous le savez, sponsorise l'émission et vous permet de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau. Alors je ne peux que vous conseiller de faire appel à eux si vous souhaitez vivre des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Le concept est simple, c'est une approche non formatée, réellement en dehors des sentiers battus, grâce à un ami local francophone qui vous fait découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà, donc c'est l'occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter via leur site verylocaltrip.fr et je les remercie grandement de sponsoriser Sur les routes de l'Asie. Retour à l'interview avec Rémi. Eh ben écoute, ça fait déjà un beau voyage, mais alors là, tu disais, donc on était sur Java, on est parti de Sumatra. Une question intermédiaire, parce que bon, il y a du transport aussi là-dedans, et ce sont des grandes îles, Java et Sumatra. Le transport routier, il est, on va dire, aléatoire, il y a des routes, mais bon, c'est très long. Après, ouais, peut-être prendre un avion de Sumatra à Java. Comment tu as fait en sorte d'arriver à être fluide dans tes transports? Parce que 20 volcans en 30 jours, ça paraît presque impossible, dit comme ça. Vu les distances, comment t'as géré les transports?
Ben, j'ai essayé en fait de profiter du maximum des transports qui étaient relativement développés sur l'Indonésie, donc l'avion bien entendu. Et après, dès qu'il y avait, d'essayer aussi de profiter du train, parce que le train c'est un moyen de se reposer tout en arrêt de réfléchir, etc. Et après, le moyen que j'ai trouvé le plus économique et le plus rapide pour se rapprocher, pour arriver au départ des volcans, c'était ce qu'ils appellent les Ojek, c'est-à-dire un mototaxi, c'est-à-dire quelqu'un qui possède un scooter que l'on va payer en marchant dans le prix et qui va nous emmener au départ du volcan. Donc à chaque fois, il y avait bateau, train ou avion pour arriver dans la grande ville et après souvent c'était en scooter. Mais en scooter, ça peut être de très longues distances. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait pour aller au Kerinchi, j'ai roulé, là j'avais loué moi-même mon scooter, j'ai roulé 6 heures aller et 6 heures retour.
Ouais, donc ça va être fatigant pour le dos et pour les fesses.
Ah oui. Non, c'est vrai que j'en avais un peu marre de rouler en scooter au bout d'un mois.
Surtout que, ouais, en plus, faut quand même rappeler que tu fais ça entre des ascensions. Donc, c'est pas comme si tu étais reposé, relax, tu t'envoies 6 heures de scooter après une ascension de volcan. Bon, voilà quoi. Il faut être en forme.
Ouais, il faut être en forme. C'est un peu fatigant. C'est un peu aussi ce qui m'a un peu pris l'esprit à chaque fois, à la fin de chaque volcan, c'est réfléchir à la façon la plus rapide de vite arriver sur le prochain point de départ, etc. Il y a des fois où ça s'est très bien passé, il y a des fois où j'étais un peu frustré parce que j'avais raté, il y avait que deux départs de bateau, j'avais raté le dernier départ de bateau, etc. Donc c'était quand même, l'aspect logistique était quand même, m'a pris beaucoup d'énergie quand même.
Très bien. Eh ben écoute, on va rester sur Java et là je vois qu'on va voilà, on va attaquer deux gros morceaux. Ces deux volcans éminemment mythiques en Indonésie et même dans le monde. On en a parlé avec Thierry, donc c'était dans les tout premiers épisodes d'ailleurs de Sur les routes de l'Asie. C'est le Merapi et c'est le Semeru. Voilà, deux volcans que j'ai eu aussi la chance de grimper. Deux volcans qui laissent toujours une impression incroyable. Alors voilà, commence par le Merapi, raconte-nous un peu cette ascension qui n'est pas la plus difficile. Mais en tout cas, moi, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler juste après, mais moi, c'est celui qui m'a fait le plus peur au niveau de. Voilà, on se dit là, si ça pète, là, on est mal. Donc raconte-nous, toi, ton approche du Merapi.
Non mais c'est ça, moi je voulais les faire parce que j'avais écouté l'émission et c'est vrai qu'il laisse cette impression-là tous les deux ce sont des souvenirs incroyables. Donc le Merapi, il est décrit partout sur Internet comme le plus dangereux d'Indonésie. Et c'est vrai on a quand même cette impression qu'il peut exploser à tout moment. Donc, le Merapi, il est dans la région de Yogyakarta. Et donc, dans la région, j'en ai fait 4 dans la région. Donc, ça fait partie d'un groupe. J'ai essayé de grouper comme ça les volcans ça faisait partie du challenge. C'était une façon de réussir aussi le challenge. Et le Merapi, il est très, très impressionnant. Et il est d'autant plus impressionnant qu'il est très fréquenté, bizarrement. Moi, je l'ai fait un week-end. Il y avait beaucoup de tentes, beaucoup de personnes. Et on grimpe vraiment sur l'arête du cratère qui fume constamment, avec une paroi relativement très très raide qui tombe au fond du cratère. Et ouais, il est et avec un sentier qui mène sur la paroi du cratère avec des panneaux d'interdiction de partout. Donc c'est vrai qu'il laisse il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il est à la fois très fréquenté et à la fois interdit presque. Je pense, je sais, je, moi, je l'ai grimpé, mais je sais même pas si on...
Ouais, théoriquement, ces volcans-là, je crois, sont officiellement interdits. Mais bon, après, il suffit d'aller au village de Selo, qui est donc au pied du Merapi, pour voir plein de petites agences indonésiennes, bien sûr, qui proposent Trek Merapi, Trek Merapi. Donc, c'est à la fois interdit et en même temps, c'est un bon petit business qui est autorisé, j'ai l'impression, puisque sinon, toutes ces agences se verraient fermées, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, de toute façon, j'étais pas seul hein, sur le volcan. Mais oui, mais il laisse cette impression quand même de. Comme vous l'avez très bien décrit dans l'émission, il est ouvert, il a éclaté lors de sa dernière éruption, et du coup, il.
La grosse éruption, ouais, c'était en 2010, ouais. Ça avait bloqué d'ailleurs le trafic aérien pendant pas mal de jours. Ouais.
Exact. Et du coup, moi, je voulais parler du Merapi parce que ça fait partie des journées où j'ai fait 2 volcans en fait. C'était pour réussir un peu mon challenge, il fallait. Je suis presque un volcan par jour, donc il fallait que j'essaye de grouper comme ça. Et donc le Merapi, en fait, il est voisin du Merbabu. Et donc comme ça, tous les deux, ils se font face avec Selo au milieu, qui est un peu le col. Et donc plusieurs fois, ça m'est arrivé de grimper pour le lever de soleil sur un des volcans. Donc moi, j'ai commencé par le Merapi. Et en fait, après, tout de suite, de redescendre le plus vite possible et de remonter sur celui d'en face. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait Gede Prangango. Et j'ai fait aussi Sindoro Sumbing comme ça. Et donc ça fait partie des là vraiment j'ai ressenti un peu le challenge sportif parce que là on était plus dans du trek, on était dans du trail là. J'avais là pour le coup, j'avais des chaussures de trail.
Il t'arrivait de courir parfois sur le volcan?
Ouais, donc là pour ces journées-là où je faisais 2 volcans, c'était la descente, je la faisais en courant. Ouais.
D'accord.
Donc j'étais parti avec un sac léger, donc sans dormir sur le site. Et je partais très tôt le matin pour le Merapi et arrivé en haut à 5 h du matin, je repartais tout de suite pour le Merbabu en face.
D'accord, c'est assez intense. Mais effectivement, ouais, courir dans la descente, c'est assez fréquent. D'ailleurs, on voit, enfin, en général, on a envie de courir dans ces tas de cendres parce que ça glisse tout seul et on fait un pas, en un pas, on fait 3 mètres quasiment. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est crevant pour les genoux, pour les cuisses et puis t'as les chaussures remplies de gravier, enfin remplies de sable et de cendres, quoi. C'est un petit peu, voilà, il faut avoir des bonnes chaussures. Il faut pas avoir peur de les salir un petit peu, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, puis il faut, ouais, c'est un peu. Les sentiers sont pas non plus hyper faciles, donc il faut. Ça demande un peu d'entraînement quand même. C'est pas facile de descendre en courant dans les sentiers des volcans. Ouais.
C'est sûr. Alors, enfin, juste encore une question sur le Merapi, parce que voilà, et donc il est dangereux, il est impressionnant, comme tu dis, il y a cette espèce d'apic qu'on arrive en haut qui tombe dans le cratère. En gros, ben voilà, si on n'est pas prudent, on fait 1 mètre, on tombe 300 mètres plus bas dans le dôme de lave. Voilà, donc c'est à savoir. Est-ce que tu as eu le temps quand même de t'arrêter un petit moment là-haut, parce que tu dis que tu as couru et tu es redescendu direct, parce que je sais qu'il y a aussi des coins où les gens vont, moi je le recommande absolument à personne de le faire, hein, mais il y a des gens qui vont un peu sur la droite quand tu arrives au sommet, qui montent le plus haut possible, qui essayent de trouver le point le plus haut du volcan. Forcément, ils ont des photos incroyables là-haut, mais c'est très 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 dangereux parce que les rochers peuvent bouger. C'est un volcan qui bouge beaucoup, qui fume. On voit les fumées au centre du cratère. Est-ce que tu as un peu profité de cette expérience d'être tout en haut?
J'ai eu la même expérience que toi, c'est-à-dire que je suis arrivé en haut. Non, je prenais le temps, mais je prenais pas de risque. C'est-à-dire que j'ai vu comme toi des gens qui essayaient de monter, comme tu l'as dit, sur la droite, sur le point le plus haut. Et moi non, moi je restais. Donc celui-là, je l'ai fait pas tout seul. Hein. Je l'ai fait avec mon ami, avec ma copine. Et on est arrivé en haut. Donc là, en fait, à chaque volcan, j'essayais parce que je faisais un compte Instagram pour que les gens me suivent. Donc essayer de prendre une photo de souvenir du sommet. Donc c'était l'instant où je me posais. Et je prenais pas de risque, hein. J'essayais juste de trouver un endroit où m'asseoir, où me reposer, etc., me nourrir un petit peu. Mais j'ai jamais essayé d'aller sur le sur les coins, parce que c'est vrai que des fois, comme tu le dis, là où il y a la plaque, où il y a le symbole de la fin d'arrivée du volcan, c'est pas le point le plus haut. Et il y a toujours des gens qui vont essayer d'aller sur le point le plus haut. Non, moi j'ai pas pris ce risque-là, non.
Ouais, toujours bien connaître la limite parce que ouais, on est sur un volcan, les volcans sont actifs, ils fument. Ça peut toujours, évidemment, on le sait, hein, ça peut toujours péter à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment important de ne pas prendre de risques à ce niveau-là et de bien le répéter, quoi. Bon, alors le Merapi, check. Le prochain, encore un grand nom du volcanisme, le Semeru. On en a parlé longuement avec Thierry la dernière fois. Thierry qui a fait le Semeru 53 fois dans sa vie. Donc voilà, il le connaît pas mal. Moi, je l'ai fait il y a quoi, peut-être 3 ans de ça. Je pense, alors je les ai pas tous faits les volcans, bien sûr, en Indonésie, mais je pense quand même qu'il se classe dans le top 3 des plus éprouvants. Pas sur l'ensemble du trek, mais sur cette partie finale, ces 3 dernières heures de montée qui sont absolument infernales dans la caillasse, dans la cendre. Mais bon, une fois qu'on arrive là-haut, c'est quand même une grande récompense. Raconte-nous toi ton expérience du Semeru.
Ouais, ben moi je suis assez d'accord pour dire que c'est un des plus beaux déjà. Quand les gens me citent, parce qu'ils me demandent à chaque fois un top, le meilleur, etc., le plus beau, je cite souvent le Semeru, parce qu'en fait le Semeru, il a un peu tout. Il a un peu tout. Il est à la fois très dur avec cette dernière partie finale, je suis tout à fait d'accord, qui est, je pense, à peu près similaire au Rinjani, qui est peut-être plus courte, mais qui est de la même difficulté. Il y a toute cette partie d'avant avec dans la plaine, avec le lac, etc., qui est magnifique, une partie qui est magnifique. Il y a du monde, il y a tout, en fait. Et il y a du volcanisme actif en haut avec ce cratère qui est interdit. Nous, on arrive au sommet, le cratère est un peu derrière. Et qui crache comme ça toutes les... J'ai exactement la description qu'a fait Thierry Robin dans ton émission, qui crache toutes les 30 secondes un petit nuage de fumée, de cendres. Et ça reste très très impressionnant.
Alors c'est toutes les 30 minutes, hein. 30 secondes, ça serait beaucoup.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Non mais en fait, moi c'était relativement court les instants où ça crache, mais c'est pas de 30 secondes, t'as raison.
Ouais, moi j'ai pas eu l'occasion de voir une grosse éruption. Alors ça dépend en fait. Il crache pas autant tous les jours. Il a quand même craché pas mal, mais il y a des gens qui arrivent là-haut. J'ai des amis qui l'ont fait, qui ont pu le voir. Où voilà, ils attendent au sommet et à un moment, il y a une sorte de gros champignon de cendre qui monte à peut-être 1 ou 2 km d'altitude et on est là à 200 mètres de la cendre. Donc c'est assez incroyable ça.
C'est incroyable. Non, c'est ça. Il y a tout. Il y a cet aspect-là. Il y a le cône, l'ombre, le matin au lever de soleil sur la. Sur. C'est vraiment magnifique. On voit le Bromo au loin. On a cette ascension qui est vraiment difficile. Ouais.
Et comme tu le dis, il est très beau. C'est vrai que la balade qu'on fait, enfin le trek qu'on fait la veille pour arriver au sommet, donc enfin, pour arriver à la base du Semeru avant l'ascension finale le lendemain, cette balade un peu dans la savane là est assez magnifique. Et c'est vrai que quand on commence à voir le Semeru au loin, là on voit cette espèce d'énorme montagne de pierre quelque part. On se dit oulala, on va monter ça là-haut. Et il fait souvent du bruit. Enfin, je sais pas si t'as eu l'occasion d'entendre, mais parfois tu marches comme ça dans le trek, t'es peut-être à 1 km à vol d'oiseau du volcan et t'entends des gros bruits de volcan qui grondent, et tu dis bon sang, demain matin à 4h30, 5h, je suis là-haut quoi.
Ouais, c'est ça. Puis en plus, on vient dormir vraiment au pied, hein. On arrive dans cette dernière petite plaine qui est vraiment au pied de ce cône rocheux là. Non, c'est très impressionnant.
Quand on s'intéresse au volcanisme en Indonésie, c'est clair que le Semeru c'est une étape obligatoire, au même titre que le Merapi d'ailleurs. Et certainement au même titre que le Rinjani, qui est la prochaine étape. Donc là, on passe au-dessus de Bali et on va sur Lombok, l'île voisine à l'est de Bali. Et on va parler du Rinjani que tu as mentionné tout à l'heure. Pas le plus haut, mais le deuxième plus haut, je crois, après le Kerinchi, mais peut-être le plus dur. En tout cas, moi, c'est le plus dur que j'ai fait. Peut-être ex aequo avec le Semeru, ça dépend, mais c'est pas la même difficulté. Je pense que le Rinjani, c'est un long trek qui se termine par une dure ascension au final. Le Semeru, c'est un trek plus court, mais l'ascension finale est peut-être plus dure au final. Mais bon, l'ensemble du trek du Rinjani est quand même sacrément éprouvant. Alors, comment toi tu l'as fait? Tu dis que tu l'as fait une première fois en trail, donc là, à ta deuxième visite, comment tu l'as fait?
Non, exactement, c'était ma troisième visite. Donc en fait,
Troisième.
moi, l'aspect difficulté, je l'avais intégré. Je savais quoi m'attendre. Non, c'était une vraie fête, le Rinjani. C'était un des derniers. Je pense que c'était quelque chose comme le 18, quelque chose comme ça. Et c'est le seul que j'ai fait avec tout un groupe d'amis. Donc c'était vraiment. Et puis j'ai pu partager parce que comme c'était la troisième fois, tout ce que je savais, etc. Mais même pour une troisième fois, il est très très impressionnant, le Rinjani. Le Rinjani, on a à la fois tout l'aspect que j'avais eu dans les premiers volcans. Communautaires des Indonésiens qui vont là pour faire de la randonnée, qui ont prévu ça depuis des mois, et à la fois aussi le tourisme. C'est-à-dire qu'il y a ce mélange là qui se rencontre sur parce que je l'ai pas trop vu, même si ça existe sur le Semeru. Bon, l'hygiène, je l'ai fait, je l'ai fait pas aux horaires d'ouverture pour le tourisme, je suis allé pas au lever de soleil, donc c'était un peu différent. Mais le Rinjani, je l'ai fait comme font les touristes, c'est-à-dire sur 2 jours ou 3. Et je trouve que c'est un, y a cette rencontre au Rinjani. Il y a à la fois toutes les agences de tourisme qui offrent ça aux touristes, certains qui n'ont jamais grimpé de volcan. C'est d'ailleurs, en redescendant, on a des phrases comme c'est la chose la plus dure au monde qui existe, des choses comme ça.
Il y a des gens qui pleurent, hein. Il y a des gens qui abandonnent, qui craquent totalement là-bas.
Ouais, il y a des gens qui n'ont jamais fait de montagne et qui, mais je les comprends quand ils disent que c'est la chose la plus dure qu'ils ont jamais faite au monde dans toute leur vie. Et à côté, il y a quand même les Indonésiens qui le font parce que c'est un sommet mythique, quoi.
Ouais, dans le Rinjani, c'est important de dire aux gens qui veulent le faire en connaissance de cause, notamment au niveau préparation physique. Je pense que tout le monde ne peut pas le faire, c'est très clair. Moi, je suis plutôt sportif, moins que toi certainement, mais je suis quand même, on va dire, en forme. Et malgré tout, la descente m'a vraiment flingué les cuisses. Je me rappelle que la redescente du Rinjani, il me fallait un bâton pour pouvoir. Enfin, mes jambes ne marchaient plus quelque part, mes cuisses étaient totalement atrophiées. Il me fallait un bâton pour me retenir parce que sinon, je ne redescendais pas, quoi. Et ça, c'est en étant, comme je dis, plutôt sportif, plutôt actif. Donc, il faut vraiment pas le faire si on aime. Si on n'est pas trop, voilà, si on n'a pas trop les jambes solides ou les genoux solides, parce que les genoux ils ramassent aussi pas mal, c'est voilà, on est dans le top au niveau difficulté des volcans en Indonésie, faut bien le dire.
Oui, tout à fait. Non, c'est un vrai défi sportif, hein, le Rinjani. Un peu comme le Semeru également, mais c'est vrai que les gens, il faut les prévenir, je pense. Et c'est peut-être là où je suis assez critique sur les agences de tourisme qui l'offrent à n'importe qui. C'est pas fait pour n'importe qui. Et moi, à regret, on entend des fois des gens qui disent qu'il ne faut pas y aller parce que c'est impossible. C'est pas impossible, mais c'est un sommet qui nécessite une certaine condition physique. Ouais.
Ouais. Par contre, si vous l'avez, c'est vrai que la récompense quand on est là-haut et qu'on voit cette immense caldeira avec le cône au centre, entouré par le lac, le cône qui fume, l'ombre du Rinjani, elle est juste incroyable. On voit les îles Gili près de Lombok, on voit les volcans de Bali, s'il fait clair, on peut même voir jusqu'au Semeru, on voit vraiment très très loin. Donc en plus, ça fait un lien avec les différents volcans que tu as pu faire avant, et tu les vois de loin, tu dis, voilà, j'étais là-bas l'autre jour, maintenant je suis ici à l'opposé. Voilà, c'est des expériences assez dures à décrire comme ça dans un podcast d'ailleurs, hein. C'est pas facile de dire qu'est-ce qu'on ressent là-haut après des heures et des heures d'efforts. Mais si vous avez la forme, si vous avez quelques jours, parce qu'il faut quand même entre 2 et 3 jours pour faire ça correctement pour le Rinjani, bon bah c'est une expérience inoubliable, on peut le dire.
Oui, c'est inoubliable. Oui, il y a tout ça. Il y a les singes à 3000 mètres au camp de base. Il y a cet énorme camp de base qui ressemble un peu je pense, à des camps pour d'alpinisme. Hein. On est là le matin, le soir, on a un peu peur. Tout le monde mange. Il y en a qui sont un peu effrayés par le sommet au-dessus. Il y a le lac en dessous. Moi, je conseille, pour ma troisième fois, c'est la première fois que j'allais au lac. C'est vraiment magnifique, le lac. Je l'ai toujours fait en 2 jours. Là, je l'ai refait en 2 jours, mais j'ai pris le temps tout seul en courant, en descendant et remontant au lac parce que je voulais aller voir le lac. Donc je conseille d'y aller parce que c'est vraiment chouette. Il y a les Indonésiens qui pêchent, il y en a qui se baignent, on peut se baigner dans le lac. Et il y a tout ça, il y a ce cône sur cette fois-ci qui plonge pas sur une plaine comme au Kerinchi, mais qui plonge carrément sur la mer parce que on est sur une île. Et c'est vraiment très très beau. Ouais.
Ouais, effectivement, moi j'avais passé une nuit, la nuit d'après l'ascension en fait, au pied du lac. C'était assez magnifique. Bah, on n'est pas loin du cône, donc je parlais tout à l'heure, et j'avais même vu donc une cérémonie hindoue avec voilà pas mal d'Indonésiens habillés en blanc près du lac. C'était assez magnifique. Ouais, il faut le dire quand même, les volcans ont une grosse signification religieuse et spirituelle hein, en Indonésie. Par exemple, le Semeru qui a une signification particulière pour les hindous, et puis le Merapi bien sûr par rapport au sultan de Yogyakarta qui est voilà qui est tout particulier. Ok, ben bah écoute, c'était le 8e déjà dans la sélection que tu as faite. Et puis, comme je l'ai dit en introduction, on a 9 volcans que tu as sélectionnés dans ton périple de 21 volcans. Donc, on en est au dernier, ça y est. Et on va parler du Gunung Ia, qui est sur Flores. Alors, Flores, voilà, un haut lieu aussi du volcanisme. Hein. Il y a beaucoup de volcans à Flores. On a parlé avec Thierry dans le passé du Kilimoutou, le plus connu. Mais il y a le Ebulobo, le Léotobi, le Imirié, le Egon. Bon, il y en a plein. C'est vraiment une île très, très importante et intéressante à ce niveau-là. Mais voilà, pour finir le récit de ton aventure, on a décidé de parler du Gunung Ia. Pourquoi? Parce que c'était le dernier, tout simplement. Donc tu vas pouvoir nous parler du volcan, et puis après on va pouvoir un peu parler, voilà, faire un bilan de tout ça, dans quelles conditions physiques tu te sentais après ces 21 volcans. Bon, parle-nous du Gunung Ia.
Ouais, donc voilà, je suis arrivé en fait à Florès. Donc Florès, c'était la dernière île, dernière étape de mon projet. Et je suis parti du Rinjani juste avant, et du coup, je suis passé par Sumbawa. J'avais un peu de regret de sauter le Tambora, qui était au départ sur ma liste. Mais d'un point de vue de logistique, c'était trop compliqué. Ça reste un volcan que j'aimerais faire un jour, mais bon, peut-être pour un autre projet. Il est vraiment très beau. C'est un des plus gros cratères. Je crois que c'est le plus gros cratère d'un volcan en Indonésie. Et du coup, je suis arrivé sur Flores, et sur Flores, j'en avais sélectionné trois. Et le dernier, c'est le Gunung Gia, qui a été une belle découverte, parce c'est un petit volcan juste à côté de la ville d'Ende, mais il est vraiment magnifique, parce que un peu comme le Merapi, il a un peu la gueule ouverte, mais cette fois-ci sur l'océan. Donc c'est-à-dire on est vraiment en bout de presqu'île, et là on grimpe, on voit rien, on grimpe donc c'est une courte montée à 500 mètres de dénivelé positif, et d'un coup on tombe sur la mer avec en bas le cratère. Et là c'était vraiment, enfin pour terminer ce challenge, c'était vraiment un super volcan. Hein. Donc là, je me suis arrêté, j'étais tout seul, comme beaucoup de volcans, et j'ai fait un cri de joie, et j'étais vraiment ravi de terminer sur ce volcan-là.
Donc là, tu étais vraiment au 30e jour de ton aventure?
Voilà. Donc le dernier jour, c'était un peu compliqué. Je voulais. J'ai pris un peu le temps sur Flores pour un peu me reposer, visiter. J'étais en voyage avec ma copine. On s'est arrêté à Labuan Bajo, on s'est arrêté à Bajawa, et le dernier jour, on a fait l'Inérié, donc j'étais pas tout seul, le Wawamuda juste à côté de Bajawa, et le Gunung Gia à coucher de soleil. C'est un des rares que j'ai fait au coucher de soleil, et voilà, j'ai terminé par le Gunung Gia. Donc c'est un petit volcan que je conseille, parce qu'il est vraiment facile, tout proche de la ville d'Ende, et il est vraiment vraiment magnifique.
D'accord, c'est intéressant. Je ne le connaissais pas non plus celui-là, j'avais jamais vu ce nom, donc c'est intéressant à savoir. Bon, bah du coup, défi relevé, tu les as fait? T'as même fait 21 volcans?
Ouais, voilà, ouais, j'étais ravi. C'était un long mois, pas mal d'efforts physiques, de préparation, de logistique, etc. Mais au final, j'ai réussi. Bon, je pense que ça fait plus de 31 jours, je crois, mais même 32 peut-être. Mais c'est en tout cas, du 6 avril au 6 mai, ben, j'ai gravi 21 volcans. Ouais.
Bon bah écoute, bravo, c'est assez fantastique ce que t'as fait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont fait ça. Je sais pas si t'as pu te documenter, voir s'il y a des gens avaient.
Je me suis documenté. Je crois qu'il y a des Indonésiens qui ont fait comme ça mais alors c'est pas du tout les mêmes chiffres, mais qui ont fait des choses assez remarquables aussi en termes de nombre de volcans en un temps limité. Mais je sais pas si quelqu'un a fait 30 jours comme ça, je sais pas.
Bah en tout cas, écoute, c'est admirable. Bravo pour ce défi, ce beau défi sportif, mais aussi voilà, de sensibilisation aux volcans du monde, d'observer un peu comment la Terre bouge, comment la Terre respire via ces volcans sur cette ceinture de feu du Pacifique, donc en Indonésie. C'est un très très beau projet que tu as mené. Forcément, la question qui me vient ensuite en tête, c'est bah, qu'est-ce que tu retires de tout ça? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que cette aventure t'a appris, tant au niveau voilà, humain, au niveau physique, mais aussi au niveau peut-être culturel?
Oui, bah j'ai énormément appris. C'était une belle aventure, ouais. Une belle aventure. Je regrette un petit peu de pas avoir plus pris le temps de profiter des paysages, parce que j'ai traversé en fait des paysages magnifiques. En tout cas, j'ai pu discuter un petit peu avec les gens au pied des volcans, etc. Et c'était à chaque fois une belle découverte de voir que les Indonésiens aiment la randonnée, ils aiment leurs volcans. Donc on croise beaucoup de jeunes. C'est surtout la jeunesse qui marche. En tout cas, en Indonésie. Et le côté négatif un peu de mon aventure, c'est leur rapport avec la nature. Et là, c'est un peu notre dernier sujet. Je pense qu'on va parler surtout des déchets. Et je pense qu'à la fin de mon voyage, j'ai traversé une nature magnifique, flamboyante, etc. Et j'étais à chaque fois un peu déçu du nombre de déchets, en Indonésie. Je pense que les déchets, en Indonésie, c'est un sujet intéressant à traiter, parce on a un problème. En tout cas, on a une différence de sensibilité vis-à-vis de la façon dont il faut gérer les déchets sur la nature même, c'est-à-dire dans des sentiers, dans des endroits très très reculés de la civilisation. Donc on a des petits villages, et pourtant, parce qu'il y a des marcheurs, parce qu'il y a des treks, on a les sentiers qui sont remplis de déchets. Moi, j'ai fait une phrase dans un interview que j'ai donné après mon projet. J'ai dit et c'était la vérité, que une façon de pas se perdre sur un sentier en Indonésie, c'est de suivre le sentier qui a le plus de déchets. Et ça m'est arrivé une fois. Je me suis perdu. J'ai rebroussé chemin, et j'ai dit, bah non, je vais prendre celui-là. Et je suis désolé, mais il y a un petit papier par terre. Je suis sûr que c'est plutôt le bon chemin.
Ouais.
Et c'est vrai que cette phrase-là, elle a un peu choqué, mais elle a fait un peu son. Les gens l'ont un peu partagé sur Facebook, etc., mes amis, etc. Et c'est vrai que c'est un peu le constat un peu négatif de mon voyage, c'est que Il y a un problème autour des déchets. Alors après, je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer. Je pense que moi, ma génération, elle trouve ça choquant. Je pense que les générations plus anciennes, mes parents, mes grands-parents, déjà, ils n'avaient pas la même sensibilité vis-à-vis des déchets, en tout cas en Europe. Donc j'espère que ça va changer. J'espère qu'on est sur la bonne voie. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui ont été un peu alertés de ma phrase, à chaque fois quand je parlais avec des amis, c'était surtout les jeunes. Donc voilà, peut-être qu'il faut laisser la jeunesse s'occuper de ce problème-là, peut-être.
Non, c'est bien que que tu soulèves ce sujet, et je pense que c'est la bonne approche que tu as eue de dire une phrase, de dire quelque chose qui a été relayé dans les médias. C'est certainement la bonne façon que l'on peut, nous, étrangers, avoir pour sensibiliser, parce qu'effectivement, si tu vas dire à un Indonésien pendant le trek, bah jette pas ton papier là, mets-le là, bon, bah, il va peut-être le faire maintenant, mais 10 minutes plus tard, il recommencera, donc c'est peut-être pas la bonne démarche. Mais par la communication, par des phrases choc, finalement, c'est peut-être une bonne chose aussi c'est peut-être une bonne manière de sensibiliser les gens.
Ouais, tout à fait, ouais. Moi, je me suis un peu retrouvé sans, je savais pas quoi faire devant ce genre d'action, parce que j'ai vu ce genre d'action, sur le Kerinci, sur Semeru, des gens qui jetaient à même le sentier. Et même si je parlais indonésien, même si j'avais les mots peut-être justes, je me sentais, inefficace, quoi. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est vrai que peut-être ce genre d'approche, peut-être de communication après le projet, après les 20 volcans, peut-être que c'est un moyen plus efficace, en tout cas.
Bah écoute, en tout cas, je suis ravi que Seules les routes de l'Asie puisse être l'écho de ça, même si bon, on a une audience francophone, donc on aura peu d'Indonésiens malheureusement qui vont nous écouter, mais il faut en parler. C'est vrai que c'est des choses dont il faut parler. C'est assez choquant, je dois le dire, hein, quand on est sur le Semeru, c'est pareil au camp de base, enfin là où on dort avant l'ascension finale. Bon, bah, c'est assez dégueulasse, hein, il faut le dire ce qui est. En plus, souvent il y a du vent là-haut, les sacs plastiques s'envolent dans l'air, bon, ça gâche un petit peu le plaisir à ce moment-là. Mais voilà, il faut espérer que ça change. Peut-être qu'ils se disent qu'on est sur un volcan, qu'à la prochaine éruption, tout va partir. Mais non, c'est pas un problème qu'on a que sur les volcans, hein. Malheureusement. C'est un problème qui est aussi sur la route. C'est un problème qui est dans les villes. Donc c'est vrai que c'est très important de soulever le sujet et puis d'en parler.
Mais je veux pas non plus jeter la pierre sur les Indonésiens. Il y a des bonnes choses qui sont faites. Par exemple, au Semeru où il y a d'autres volcans, au camp de départ, on signe un papier comme quoi on est obligé de rentrer avec son sac de déchets. Il y a même un des volcans, on nous donne un sac en plastique, je crois qu'il est biodégradable, ou réutilisable en tout cas, où on doit rentrer avec ce sac plein de ce qu'on nous on a produit. Donc il y a des actions. Il y a des actions et je pense qu'elles sont plutôt, c'est une bonne chose en tout cas.
Ouais, en effet. Bon, alors bien sûr, dans ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui voudront suivre tes traces. Alors peut-être pas faire 20 volcans en 30 jours, parce que voilà, tout le monde n'en est pas capable et tout le monde n'en rêve pas, je pense. Mais en tout cas, c'est inspirant de toute façon d'écouter ton histoire. Mais il y aura peut-être des gens qui voudront, voilà, en faire quelques-uns ou même juste un le temps d'un week-end quand ils seront quelque part en Indonésie. Est-ce que tu as des conseils, qu'ils soient pratiques, qu'ils soient côté voilà, matériel ou même juste état d'esprit à avoir pour grimper des volcans en Indonésie?
Ouais, bah déjà je pense que il faut se renseigner parce que partout, en tout cas où là on se trouve, on peut peut-être faire une ascension qui sera un souvenir incroyable. Donc se renseigner et après se renseigner aussi de la difficulté et en fonction de la difficulté réfléchir ou pas à passer à une agence de tourisme, etc. Moi c'était impensable de prendre un guide à chaque sommet parce que c'était en quelque sorte je voulais pas m'encombrer d'un guide, surtout pour le challenge sportif que je devais faire. Mais il y a certains sommets, certaines panoramas ou environnements qui nécessitent un guide parce que ça c'est toujours intéressant d'avoir de l'information sur la faune, la flore, etc. Et puis ça amène aussi si le sommet est difficile, si le sommet est dangereux, un peu de sécurité aussi. Donc se renseigner, donc c'est-à-dire qu'il y a des volcans, je pense, qui n'ont pas besoin d'un guide. Certains de ces Semeru, etc. qui peut-être nécessitent un guide. Et après partir, c'est relativement simple. On arrive au village de départ avec un guide ou sans guide, et après on a le sentier, on se renseigne bien sur le sentier, on peut regarder sur internet, il y a les sites, je l'ai cité tout à l'heure, Gunung Bagging, qui décrit en anglais tous les chemins d'accès avec les données GPS, et après on arrive en haut pour le lever de soleil et on profite du panorama magnifique.
Oui, et puis de toute façon, les guides, il faut dire ce qui est, c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de volcans qui ont des histoires, que ce soit sur les anciennes éruptions ou les histoires liées, donc comme je le disais, à la religion, à la spiritualité des locaux par rapport aux volcans. Donc c'est intéressant aussi pour ça d'avoir un guide. Et puis de toute façon, la plupart des volcans, il faut le dire, demandent un guide obligatoire. Donc ce ne sera pas toujours un choix à faire pour vous. Très bien. Eh ben, écoute, Rémi, c'est un beau récit d'aventure que tu nous as livré ici. Sur les routes de l'Asie, c'est un podcast d'aventure et de découverte. Donc, t'es vraiment dans le thème. Et les volcans, c'est quelque chose qui, moi, me passionne aussi. On a eu l'occasion d'en parler souvent dans l'émission. Il y avait aussi Jacques-Marie Bardenzeff, le célèbre volcanologue, qui était venu parler des volcans du Japon. Il y a pas mal d'épisodes de cela. Donc, c'est toujours un plaisir de parler volcans dans l'émission. Je suis obligé de te demander quand même cette question de ton top, parce que tu en as vu quand même pas mal, tu en as grimpé pas mal. Est-ce que tu as un top personnel, allez, top 3 ou top 5 de tes gros coups de cœur, où tu dirais là, si vous avez un choix à faire, il faut faire cela en priorité?
Je mettrais le Semeru, le Kirinchi. On n'en a pas parlé, j'ai beaucoup aimé le Slamet. Slamet qui est sur Java. Et après, le Merapi. Et après, le cinquième, peut-être, je mettrais le duo Sindoros ou Ming, qui sont en allant vers le plateau de Dieng, quand on part de Yogyakarta, qui sont deux volcans jumeaux magnifiques, ouais, qui se font face. Qu'on peut faire, moi je les ai fait en une journée, mais on peut les faire sur 2 ou 3 jours, l'un puis l'autre. C'est vraiment de très beaux volcans aussi.
Parfait. Eh bien, écoute, tous ces noms, de toute façon, bien sûr, seront retrouvés sur la page de l'épisode sur le site web. Et d'ailleurs, je vais mettre le programme complet que tu m'avais gentiment envoyé, donc avec voilà jour par jour les volcans que tu as grimpés, les trajets que tu as faits. Ça permettra aux auditeurs de bien voir étape par étape tout le périple que tu as accompli. Comment on peut te retrouver d'ailleurs des éléments sur ton périple, que ce soit des photos ou peut-être plus d'informations? Est-ce qu'il y a des moyens de te suivre ou voilà, d'avoir accès à des informations supplémentaires?
Bah le projet, en fait, je l'avais appelé Kakiapi, parce que je voulais un projet un peu abouti. Mon ami avait fait l'identité visuelle un peu du projet avec des petits dessins, etc., une carte, et on en a fait un compte Instagram. Donc il suffit de chercher Kakiapi Indonesia sur Instagram. Et Kakiapi, ça veut dire kaki, c'est le pied, et api, c'est le feu. Donc le pied de feu ou les pieds de feu en indonésien. Voilà, donc on tape ça sur Internet, on trouve mon compte Instagram. Donc sur le compte Instagram, il y a toutes les photos des volcans, etc. À chaque fois, un petit récapitulatif de la dénivelée que j'ai fait. Et après, si on tape mon nom et le nom du projet sur Internet, on a des articles Internet qui sortent sur le projet. Et je serai publié également dans Outgore Go, qui est un mensuel de trek, d'activité nature. Et ce sera publié en septembre.
Magazine français qui se retrouve en France?
Oui.
D'accord. Parfait. Et ben rendez-vous est donné en septembre pour ceux qui voudraient voilà lire davantage sur ton aventure sur le magazine Outdoor Go. Ben écoute Rémi, merci beaucoup pour ta participation dans l'émission. Merci encore de m'avoir contacté et de m'avoir proposé d'y participer. C'était vraiment tout naturel pour moi de t'accueillir et puis de voilà de parler de ton beau projet sur les volcans. Quel va être ton prochain projet? Est-ce que tu as déjà un prochain projet ou défi en tête?
Déjà, je te remercie toi aussi d'avoir accepté et de m'avoir fait cette interview très intéressant. Merci sur les routes de l'Asie. Moi, j'ai peut-être un petit projet là rapidement, c'est d'aller grimper les sommets qui sont à côté des étapes du Tour de France là. Donc, je suis un passionné de vélo aussi également. Donc, je vais aller faire les sommets qui sont juste à côté des étapes de montagne dans les Alpes.
Parfait, bon, toujours un projet en tête, ça c'est bien.
Oui, voilà, ouais, toujours.
Ok, bah encore une fois, Rémi, merci beaucoup, et puis je te dis à très bientôt.
Merci Romain, merci à Sur les routes de l'Asie et à bientôt peut-être. Ouais.
Salut.
Salut!
Nous voilà au bout de ce 50e épisode de Sur les routes de l'Asie. J'espère qu'il vous aura plu, inspiré et donné envie d'aller vous-même fouler quelques volcans indonésiens. Vous retrouverez la liste complète de tous les volcans que Rémi a grimpés sur la page de l'épisode sur lesroutesdelasie.com/50 et vous y retrouverez également les différents liens pour le suivre, le lien vers le magazine où la publication va paraître en septembre et puis également le site indonésien qui fournit les différentes coordonnées GPS pour faire des treks sur les volcans. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à laisser un avis sur iTunes, sur la page du podcast. Et aujourd'hui, j'aimerais citer T. Riri qui a laissé 5 étoiles avec ce commentaire. Chaque épisode est un voyage. Il est vraiment très agréable de voyager avec les épisodes de ce podcast. Chacun a l'occasion de découvrir un lieu inconnu ou de revisiter en ravivant des souvenirs d'un endroit connu. Bravo au créateur. Fin du commentaire. Eh bien, merci beaucoup à toi et j'espère que vous serez encore nombreux à laisser une note et un commentaire car vous le savez, c'est la principale façon pour le podcast de se faire connaître. 50 épisodes déjà, voilà qui commence à faire beaucoup pour un podcast fait avec les moyens du bord sur mon temps libre. Et j'aimerais, dans les semaines qui viennent, prendre un peu de recul, prendre un peu de temps pour réfléchir à l'avenir de Soleil Route de l'Asie, comment continuer à vous fournir du contenu de qualité. Alors restez à l'écoute, suivez la page Facebook qui comporte de plus en plus de fans et je vous en remercie, où je poserai voilà, de temps à autre quelques questions pour vous demander votre avis sur tel ou tel aspect de l'émission. Et puis de votre côté, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions sur le podcast lui-même, son format, ou sur des questions plus voyage, sur les destinations dont on a parlé. J'aurai vraiment plaisir à les rassembler et à organiser un épisode spécial questions-réponses si j'en reçois assez. Le plus simple, c'est de me contacter via Facebook ou mon email romain@surlesroutesdelasie.com. D'ici là, je vous remercie grandement pour votre fidélité dans le temps, 4 ans, 50 épisodes, et j'espère beaucoup d'autres à venir. Merci pour votre écoute. À très bientôt et excellent voyage en Asie.